Leclerc.
En ce moment, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 50 euros de remise immédiate sur le smartphone Galaxy J7 2017, 4G et 13 millions de pixels.
Mais non!
Et si?
Du 10 au 21 octobre chez Leclerc, le smartphone Galaxy J7 2017 avec 50 euros de réduction immédiate est à 299 euros, dont 2 centimes d'éco-participation. Voir modalités dans les magasins participants et détails concernant le DAS sur le site i-tech.leclerc. L'usage d'un kit main libre est recommandé.
C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc.
On de la traconte sur Europe 1.
Bonjour à tous, je vais donc vous raconter aujourd'hui ce qu'on a appelé l'affaire Baupin, quand l'année dernière, le vice-président de l'Assemblée nationale, Denis Baupin, s'est retrouvé accusé par 16 femmes de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Et j'ai bâti cette histoire en partie à partir de votre livre, Sandrine Rousseau. Bonsoir.
Bonsoir.
Parler, c'est le titre de votre livre qui vient de sortir chez Flammarion. Merci d'être là, livre dont je pense chacun a entendu parler, faute de l'avoir lu, puisqu'il est à l'origine d'un clash le week-end dernier dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. Clash qui vous a opposé à Christine Angot et dont on dira un mot tout à l'heure. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'à 18h20, je vais recevoir la directrice de France 2, Caroline Gott. Elle va s'exprimer pour la première fois depuis ce clash télévisuel. Je salue aussi Maud Beckers, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialiste du droit du travail et notamment de la question du harcèlement sexuel au travail. Un mot avant d'attaquer mon histoire et quelle histoire. Cette affaire est sur le plan juridique assez délicate car le procureur a jugé que les faits qui étaient reprochés à Denis Baupin étaient prescrits. Il a donc prononcé un classement sans suite, ce qui veut dire en droit que Denis Baupin est innocent et qu'il est définitivement innocent de tout ce dont vous l'accusez vous-même, Sandrine Rousseau, et que donc on va se tenir, vous et moi, sur ce fil qui n'est pas pratique à pratiquer, mais ce fil que nous impose la loi. Notez que j'ai proposé à Denis Baupin de s'exprimer au cours de cette émission et qu'il a décliné ce dont nous détenons la preuve. Il reste que l'épisode que vous racontez dans votre livre et que je raconte à mon tour dans une minute a existé. Il a existé publiquement. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebras.
On de la traconte sur Europe 1.
Cette histoire commence par une photo. Une photo prise à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme 2016. Une idée d'agence de com. Et si on demandait à 8 députés hommes de mettre du rouge à lèvres en costard, ça serait drôle, non? T'en penses quoi? Et voilà comment 8 députés se retrouvent en randonnion sur la même photo, les lèvres délicatement maquillées de rouge. Et tout l'intérêt, c'est qu'il y a quelques têtes connues. Benoît Apparu, là, Jean-Christophe Lagarde, Olivier Falorni à côté de lui, puis le deuxième, là, en partant de la gauche, Denis Baupin. Lui aussi, on le connaît bien. Il est député Europe Écologie Les Verts de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. Belle photo en tout cas. Et donc cette photo est lancée par les communicants de la Journée de la Femme sur Internet. Où elle rencontre, je dois vous le dire, un certain succès. Hé, hey, pensez donc, des politiques avec du rouge à lèvres. Il y a de quoi se marrer, non? De quoi se marrer? Pas sûr, non? Car la photo échoue entre autres sur la page Facebook d'une élue écologiste du Mans, Hélène Debost. Et quand elle la voit, ça lui colle la boule au ventre. Il est gonflé, lui. Il est gonflé. Les droits de la femme, tu parles? Et comme elle est sur Facebook, qu'est-ce qu'elle fait d'après vous? Eh bien, elle se lâche sur Facebook. Sous la photo, elle poste un commentaire, bien lourd de sous-entendu. Quand j'ai vu la photo de Baupin pour la journée du 8 mars, je suis allé vomir. Et elle n'a pas menti sur le vomi.
Moi, je l'ai découvert le 11. J'ai accompagné mon fils à l'école. Je reviens, les ordinateurs, tout ça, je me mets à travailler. Et la photo arrive sur ma timeline Facebook. Et quand je vois la photo, je lis le sous-titre, nausée, et je suis allé vomir.
Ce commentaire sur Facebook, il y en a une qui le voit. Et c'est encore une militante écologiste. Sandrine Rousseau, elle est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et elle aussi, la photo l'a estomaquée. Et grâce à ce commentaire, elle est contente de découvrir que peut-être, elle n'est pas la seule à avoir eu de petits problèmes avec Denis Baupin. Alors elle va chercher dans les fichiers du parti le numéro de téléphone de cette Hélène Debost, celle qui est allée vomir, et elle l'appelle. Et elle ne se doutait pas à quel point elles avaient toutes les deux des choses à se dire. Au téléphone, c'est Sandrine qui raconte la première. Elle, ça remonte à octobre 2011. Pendant une réunion du parti à Montreuil, une réunion pour préparer la présidentielle et les législatives.
Tu vois, je faisais partie des intervenantes. Et puis à un moment donné, j'ai fait une pause pour aller aux toilettes. Et c'est là que je l'ai croisé, dans un couloir. Il m'a plaqué contre le mur. Il a voulu m'embrasser de force, en me tenant par la poitrine.
Et t'es sorti de là comment ?
Bah, je l'ai dégagé. Il n'a pas insisté, hein. Mais ça m'a fichu un coup. J'ai mis un moment à reprendre mes esprits. Je tenais plus debout.
Eh ben moi, c'était au moment de la désignation des candidats aux législatives. Il m'a demandé de le soutenir. J'ai accepté. Je suis assez proche de sa ligne politique. Et puis une semaine après, j'ai commencé à recevoir. T'as pas idée, une pluie de SMS. Et pas pour parler des législatives, hein. Des trucs sexuels, bien lourdingues. Ça sortait de nulle part, genre, je suis dans un train et j'aimerais te sodomiser en cuissarde, ou encore, j'ai envie de ton cul. Tu vois le style, quoi.
Et elles restent longtemps, toutes les deux, à se parler au téléphone et à se demander notamment s'il n'y en a pas d'autres comme elles. Dans son livre, Sandrine Rousseau écrit « En échangeant, imperceptiblement, notre colère est devenue détermination. Cette photo, nous en étions d'accord, était une provocation. » Yeux dans les yeux, rouge aux lèvres, petit mépris du dominant, assurance de celui qui se sent en impunité. Et là, tout de suite, elle pense à deux journalistes. Lénaïque Bredou de Mediapart et Cyril Graziani de France Inter. Depuis quelque temps, il paraît qu'il s'intéresse de près à Denis Baupin. Pour les mêmes raisons, hein, des rumeurs qui courent à son sujet.
Moi, ma première alerte, elle remonte déjà il y a un an, où on m'a dit, il y a un problème, il y a des femmes qui disent qu'elles ont eu un problème avec Denis Baupin. Et donc, petit à petit, on a dénoué les fils. On est allé voir ces femmes pour leur demander si elles étaient prêtes à témoigner. Elles nous ont pas appelé forcément spontanément pour nous dire, voilà, je voudrais vous raconter quelque chose, parce que c'est des choses qui sont difficiles à raconter, difficiles à dire.
Mais pour vous dire la vérité, jusque-là, les deux journalistes n'ont pas trouvé grand-chose. Quelques témoins, mais qui refusent de parler, et beaucoup de ragots invérifiables. Tout ça pour dire que quand ils reçoivent l'appel de Sandrine Rousseau et d'Hélène Debost, Bredou et Graziani se disent « Bingo !» La rencontre entre les deux militants écologistes et les deux journalistes a lieu dans une salle de la mairie du 2e arrondissement, après une réunion. Et Sandrine et Hélène leur parlent pendant 2 heures. Dans son livre, Sandrine Rousseau écrit « Le dos et les nuques étaient raides et la tension palpable. C'est ici que le papillon a battu des ailes pour la première fois et que l'enquête a vraiment débuté. » Et au bout, les deux journalistes ont donc les témoignages qu'ils cherchaient. Et c'est important, elles sont d'accord toutes les deux pour témoigner. Publiquement, elles n'ont pas demandé d'anonymat. Mais bon, est-ce que ça suffit pour sortir l'affaire ? Pas tout à fait. Il faudrait d'autres témoignages, des recoupements, des gens qui ont vu, des gens qui ont entendu. C'est délicat de mettre en cause la probité d'un homme. Il leur faut plus que ça. Alors ils creusent, et ils interrogent, et ils fouillent. Et là, ils trouvent des bonnes âmes pour leur dire...
Vous avez pensé à sa femme, à ses enfants. Vous risquez de détruire une famille. Vous y avez pensé à ça.
Eh oui, il a une femme, Denis Baupin. Et ça n'est pas n'importe qui, c'est la ministre du Logement, Emmanuelle Cos. Et puis à force de poser des questions, ça commence à se savoir chez les Verts que deux journalistes s'intéressent à Denis Baupin à cause de... Vous savez quoi ? Et un matin, Lénaïque Bredou et Cyril Graziani reçoivent une jolie lettre de Maître Pierrat, l'avocat de Denis Baupin, une mise en demeure de cesser leurs investigations. Ouh là là, ça fait peur, que diable ! Mais les deux ne sont pas du genre impressionnables. Ça leur donnerait plutôt, voyez-vous, un petit coup de fouet. Et là, ils trouvent un nouveau témoin, puis une deuxième, puis une troisième. Et au bout de 2 mois d'enquête, début mai 2016, ils ont 8 témoignages. Sandrine Rousseau et Hélène Debost, bien sûr, mais aussi Annie Lameur et Isabelle Attard, 2 autres élus Europe Écologie Les Verts, plus 4 autres qui ont demandé à rester anonymes. Mais ça, ni Sandrine, ni Hélène ne le savent. Les journalistes ne leur disent rien. Normal, c'est trop sensible. Alors elles ont peur, bien sûr, de ce qui va se passer quand ça va sortir. Parce que dans le parti, forcément, ça va mettre une de ces pagailles. Waouh ! À tout de suite.
Pour intervenir dans On de la traconte sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute. On de la traconte sur Europe 1.
Je vous raconte aujourd'hui comment, au printemps 2016, le député écologiste Denis Baupin, vice-président de l'Assemblée nationale, se retrouve accusé de harcèlement sexuel et même d'agression sexuelle par 8 femmes, membres pour la plupart de son parti, dont Sandrine Rousseau, qui a écrit ce livre qui fait tant parler depuis l'émission de Laurent Ruquier samedi dernier sur France 2. Parler, c'est le titre de ce livre publié chez Flammarion et dont je me suis servi, mais pas seulement, pour vous raconter cette histoire. Et Sandrine Rousseau sera là, avec nous, dans un instant. Elle n'a pas parlé depuis le week-end dernier. Et vous pourrez parler avec elle si vous le souhaitez, en appelant le 3921. J'aurai aussi avec moi l'avocate spécialiste du harcèlement sexuel, Maud Becker. Dans le récit, nous en étions au moment où 2 journalistes sont parvenus à réunir 8 témoignages sur les attitudes plus ou moins déplacées de Denis Baupin. Ils ont bétonné leur dossier. Il est temps de le sortir. Et l'affaire éclate le 9 mai 2016.
Ce sont des accusations de harcèlement sexuel qui résonnent ce midi dans les murs de l'Assemblée nationale.
Parce que la personnalité politique qui est mise en cause occupe de hautes fonctions. Denis Baupin, député écologiste, vice-président de l'Assemblée nationale. 8 femmes racontent ce qu'elles ont subi.
SMS, et évidemment, les trombines de celles qui accusent passent en boucle sur les chaînes d'information. Ce matin-là, Sandrine Rousseau, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Lille, a une réunion. Et elle y arrive avec des lunettes noires, dérisoires par avant, pour tenter de passer incognito. Les stars le savent bien, les lunettes noires ne vous font pas disparaître. Au contraire, on ne voit que vous. Et pendant la réunion, son portable n'arrête pas de vibrer. Et elle reçoit des tonnes de SMS. Elle n'entend même pas ce que l'on raconte autour d'elle. Elle est ailleurs. Et elle en conclut que sa place n'est pas à Lille, mais à Paris. Avec les autres. Alors elle saute dans un train et elle les rejoint. Et en débarquant à Paris, elle met les pieds dans un tourbillon médiatique. On veut qu'elle raconte. On veut qu'elle raconte le jour où Baupin l'a plaqué contre le mur. Alors elle raconte et on lui dit « Mais pourquoi vous n'avez rien dit jusqu'ici ?» Et elle explique les bons conseils que lui ont donné ses proches.
« Ben, ils m'ont dit, Sandrine... C'est un spécialiste du nucléaire. C'est pas à toi qu'on va apprendre que dans un parti écolo, ça compte. Ils m'ont dit, réfléchis bien. Qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu le dénonces? Ils m'ont dit, c'est un proche de Dominique Voynet. Dans le parti, elle a du poids. Ils m'ont dit, méfie-toi.
Sandrine Rousseau dit avoir alerté à l'époque 2 cadres du parti.
Pour l'un, mais il m'a répondu « Ah, il a recommencé, c'est pas possible ». Et puis l'autre l'a pris sur le ton de la plaisanterie, d'un air de dire « Bon, on sait, de toute façon, il fait ça à tout le monde ».
Et forcément, les journalistes interrogent les cadres du mouvement écologiste, et notamment les femmes, et Cécile Duflot, la première.
Vous avez été secrétaire nationale de votre parti de 2006 à 2012. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un problème Baupin ?
J'avais entendu des rumeurs, des bruits, des indiscrétions jusqu'au jour où Sandrine Rousseau m'a raconté En 2014, en juin, je crois, 2014, précisément ce qui lui était arrivé.
Baupin est immédiatement lâché par le parti, qui publie un communiqué qui salue le courage des militantes qui ont brisé la loi du silence. Il y en a même comme Yves Contasso, conseiller de Paris, qui accuse la femme de Baupin, Emmanuelle Cos, de l'avoir couvert.
Sa compagne était simplement secrétaire nationale et à ce moment-là, quand il a été annoncé à notre Conseil national qu'il y avait des accusations de harcèlement, eh bien c'est vrai que ça donnait lieu à une espèce de foire d'empoigne et vraiment avec un choc extrêmement fort chez tout le monde. Et Macos, en tant que secrétaire national, a dit stop, on reprendra ça dans d'autres conditions.
Et on ressort d'anciens tweets de Denis Baupin, dans lequel il se targuait d'être féministe. Par exemple, ce tweet dans lequel il exprimait sa fierté de participer à une loi contre le harcèlement sexuel, ou un autre dans lequel il déplore le manque de parité au sein du groupe UMP de l'Assemblée nationale. Bref, on fait semblant de découvrir la duplicité de l'être humain. En tout cas, dès que l'affaire sort dans la presse, Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, demande la démission de Baupin de son poste de vice-président. Et dans la foulée, Denis Baupin lui-même annonce sa mise en retrait du groupe écologiste à l'Assemblée. Il entame sa descente aux enfers. Mais on voudrait l'entendre, on voudrait qu'il s'explique. Pour l'instant, il envoie son avocat au charbon.
C'est pas grave parce que les échanges autour sont très anodins et montrent que vraiment il ne s'agit pas d'une femme traumatisée. C'est une femme qui continue à discuter avec lui sans difficulté aucune et qui ne se plaint de personne et à rien.
D'accord, mais quand Sandrine Rousseau est venue ici même sur le plateau de BFM Story me raconter qu'elle avait été agressée physiquement par Denis Baupin, elle ment ?
Mais oui, sans doute.
Et évidemment, à un moment donné, on interroge sa femme, Emmanuelle Cos. Ici, le 10 mai 2016, sur France Info.
J'ai appris, comme vous hier, ces accusations d'harcèlement. Et je vais vous dire franchement, là-dessus, il n'y a pas à transiger. C'est-à-dire qu'on parle de faits qui sont d'une extrême gravité. Et si ces faits sont avérés, il faut que ça soit réglé devant la justice. Et si ces faits ne sont pas avérés, il faut aussi que ça soit réglé devant la justice.
Et maintenant qu'on a ouvert la boîte de Pandore, évidemment, il y en a d'autres qui veulent témoigner. 5 femmes de plus qui accusent Baupin de harcèlement sexuel. Et bientôt, elles sont 16 au total. Dont une qui raconte qu'au cours d'un dîner entre dirigeants des Verts, Baupin s'est mis à lui faire du pied sous la table. Avec insistance, il a retiré sa chaussure pour atteindre son entrejambe. En plein dîner de travail. 16 témoignages. Alors que va faire la justice ? Immédiatement, le procureur ouvre une enquête préliminaire sur des faits susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d'appel téléphonique malveillant. Et il confie l'enquête à la BRDP, la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Avec une question qui est essentielle en droit. Les faits sont-ils susceptibles de poursuite ou sont-ils prescrits ? 3 ans. La loi dit, si c'était il y a plus de 3 ans, c'est mort. Les policiers de la rue du Château des Rentiers interrogent tous les témoins, un par un, et plusieurs cadres du parti, dont Cécile Duflot. Et entre-temps, Denis Baupin s'exprime enfin, dans l'Obs, et voilà sa ligne de défense.
J'ai longtemps été, je dirais, dans le registre de la séduction, et dans une forme de libertinage qui correspond à la culture des écologistes.
Et dans les jours qui suivent, 3 accusatrices portent plainte.
On nous a reproché d'avoir parlé trop tard et on nous a reproché de ne pas avoir porté plainte. Puisque dans ces histoires-là, c'est les victimes qu'on accuse. Pour la justice, tant qu'on n'a pas porté plainte, nous sommes des témoins. À partir du moment où on porte plainte, nous sommes des victimes.
Et là, il va falloir attendre, attendre et attendre encore. Pour savoir si ces plaintes sont recevables ou si elles couvrent des faits prescrits. Et cette attente dure 10 mois. Et la réponse tombe le 6 mars 2017. Elle est crue, elle est raide, comme une décision de justice. Les faits sont trop anciens, ils datent d'il y a plus de 3 ans. Si ça n'avait pas été le cas, dit le procureur, il y aurait eu matière à des poursuites pénales. Mais la loi est la loi, le procureur prononce un non-lieu général. ça n'ira pas plus loin. Fin de la partie. Enfin, pas tout à fait. Car Denis Baupin, innocent pour toujours, se dit maintenant victime. Victime d'un matraquage médiatique. Il décide donc de porter plainte contre ses accusatrices pour dénonciation calomnieuse. Et ça aussi, c'est raide. Mais en droit, ça se tient. Et Sandrine Rousseau est mise en examen le 24 mars 2017. Et elle porte plainte à son tour contre Baupin sur la même base, dénonciation calomnieuse. Et elle écrit ce livre qu'elle va présenter en avant-première chez Laurent Ruquier, dans lequel elle invite les femmes victimes d'agressions sexuelles à briser la loi du silence. Et l'émission vire au pugilat avec la chroniqueuse Christine Angot.
Mais on ne fait pas dans un parti politique la question des agressions sexuelles, enfin. On le fait avec l'humain.
Enfin, Christine, je l'ai dit à toutes les directions d'Europe Écologie et Les Verts depuis que ça m'est arrivé. Je l'ai dit. Mais l'humain, j'en ai fait. Il n'y a personne, jamais.
Mais évidemment qu'il n'y a personne.
Et donc, mais il faut évidemment qu'il y a des gens qui, à un moment donné, entendent le message.
Mais il le faut mieux. Mais non, ça n'existe pas. Voilà, c'est comme ça, il faut se mettre ça dans la tête.
Bah,
il n'y a
alors,
personne qui peut entendre.
Mais comment
on
fait?
On se débrouille.
Je le redis, j'ai sollicité Denis Baupin pour qu'il donne sa version de cette histoire. Il a décliné mon invitation. C'est son droit, mais je le regrette profondément. Et je le répète parce que c'est la loi. Il est innocent des faits dont on l'accuse. Et nous allons débriefer cette histoire dans un instant avec Sandrine Rousseau elle-même, qui est l'auteur de ce livre parlé dont je me suis largement inspiré pour vous raconter cette histoire et qui est publié chez Flammarion, et avec Maître Maud Beckers, qui est avocate spécialiste du droit du travail et notamment de la question du harcèlement sexuel au travail. 39-21 si vous voulez intervenir vous aussi. À tout de suite.
On de la traconte sur Europe 1. On de la traconte sur Europe 1.
Je viens donc de vous raconter à l'instant, et si vous ne l'avez pas entendu ou entendu en entier, vous pouvez toujours le retrouver en podcast ou sur le site europe1.fr, un épisode peu glorieux de notre histoire politique contemporaine, l'affaire Denis Baupin, ce moment où le vice-président écologiste de l'Assemblée nationale se retrouve accusé de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle par 16 femmes qu'il a croisées dans le cadre de son parti Europe Écologie Les Verts. Et nous allons maintenant débriefer cette histoire avec vous, Sandrine Rousseau, qui êtes l'une des plaignantes et qui venait de publier chez Flammarion ce livre « Parler », qui est aussi le nom d'une association que vous avez créée pour que les femmes prennent la parole et disent enfin les choses. Et avec vous, Maud Beckers, vous êtes avocate spécialiste du droit du travail, notamment de la question du harcèlement sexuel au travail. Je le redis parce que c'est important, le procureur a prononcé un classement sans suite dans cette affaire, j'ai dit non-lieu général, je m'en excuse, ce sont les juges d'instruction qui prononcent des non-lieux, donc un classement sans suite, puisque les faits incriminés étaient prescrits, trop anciens, et donc en droit, Denis Baupin est innocent et c'est définitif, et nous nous devons de le dire et de le répéter parce que c'est la loi et que nous y tenons. Nous l'avions invité à participer à cette émission, il a décliné, nous détenons la preuve du fait qu'il a décliné, et ainsi vont les choses. Sandrine Rousseau, un mot pour commencer sur ce clash télévisuel auquel vous avez participé samedi dernier avec Christine Angot dans On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier sur Antenne 2. Caroline Gott, la directrice de France 2, sera tout à l'heure mon invitée à 18h20 et elle aura l'occasion, elle aussi, de réagir. Quel regard, au fond, maintenant que vous avez repris peut-être vos esprits, vous jetez sur ce moment de télévision absolument incroyable?
Je trouve que ce moment de télévision, il faudra le regarder à différents moments et notamment dans quelques mois, parce que finalement, il dit, je trouve, toute la difficulté qu'ont les femmes à parler. C'est-à-dire que c'est, il dit aussi toute la violence de ce que sont les violences sexuelles. Et il dit aussi à quel point il y a une forme d'incompréhension de ce que c'est et qu'on en demande toujours plus pour essayer de comprendre, alors qu'en fait c'est au départ une question de principe, quoi. C'est juste qu'on n'utilise pas le corps de l'autre contre son gré et finalement il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup plus au-delà pour pour comprendre les violences sexuelles.
Alors, Christine Angot dit en gros, hein, c'est une affaire intime dont on ne peut pas faire d'usage politique. C'est à peu près ce qu'on comprend de son énorme colère, dont il nous manque un épisode, puisqu'elle quitte le plateau, elle va dans sa loge, elle hurle, etc. Tout ça a été coupé au montage. C'est un raisonnement qui est audible, s'il n'est pas crié, s'il n'est pas jeté à la face. Est-ce que vous l'avez compris un peu ou pas du tout?
Non, mais c'est évidemment avant tout une affaire privée. Enfin, évidemment que ça nous arrive à nous. Simplement qu'il y a des déterminants sociaux dans ces agressions sexuelles. Les chiffres, par exemple, sont assez révélateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a juste 1%, et vraiment ce chiffre pour moi devrait éveiller les consciences dans toutes les têtes qui l'entendent. Il y a juste 1% des auteurs d'agressions, de viols et de harcèlement sexuel qui sont condamnés aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a 99% qui ne le sont pas. Ça, c'est un chiffre qui dit qu'il y a aussi des déterminants sociaux et que ça n'est pas qu'une question privée, c'est aussi une question collective de la manière dont on gère ça. Et c'est ce que j'essaye de dire, c'est le trait d'union que j'essaye de faire entre finalement la femme politique que j'étais, puisque voilà,
plus,
que je suis moi en tous les cas.
Vous et êtes puis, toujours adhérente, hein,
oui,
au parti
et l'affaire privée qui est la mienne et qui est l'histoire. Et je pense que ce trait d'union, il peut aussi servir parce que moi, j'ai un statut presque privilégié par rapport à plein de femmes qui n'ont pas du tout le pouvoir de parler et qui n'ont pas du tout l'oreille attentive que nous on peut avoir. Et donc, c'est aussi une forme de responsabilité que j'assume.
Alors, reprenons le fil de cette histoire que je viens de raconter, puisque c'est un débrief que nous faisons actuellement avec vous et avec vous, Maître Maud Beckers. On s'aperçoit que finalement, les cadres de votre parti étaient au courant depuis belle lurette. Il y a même un moment assez surréaliste, c'est le moment où on entend Cécile Duflot, que jusqu'ici je prenais pour une féministe, dire qu'elle était au courant depuis 2014. Si elle avait levé le petit doigt ou si elle vous avait aidé à lever le petit doigt, les faits n'auraient pas été prescrits.
Enfin, Cécile Duflot, c'est sans doute celle qui est la moins condamnable dans cette histoire. Hein,
parce oui, mais elle que sait finalement, que 2014, elle dit rien. Elle qui ne laisse rien passer. Rien.
Ben, c'est quand même elle qui m'accompagne dans l'idée de dire c'est une agression sexuelle, il faut faire quelque chose. Enfin, elle m'accompagne pas au sens où elle me demande pas de parler, mais elle me dit bon, ben, c'est grave ce qui s'est passé. C'est la première qui dit c'est grave ce qui s'est passé.
Et pourtant, donc, elle franchit pas le cap.
Non, mais il y a plein d'hommes aussi à qui j'en ai parlé et à qui c'est passé
pas
et qui s'est passé très au-dessus.
Parmi les cadres du parti, tout le monde sait au fond quand l'affaire éclate, tout le monde est au courant de ce qui vous est arrivé.
Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais il y en a un certain nombre qui sont au courant et surtout si c'est pas moi, c'est d'autres cas qui se connaissent, qui savent.
Maître Beckers, oui. Est-ce que c'est symptomatique ça de la question du harcèlement sexuel, le côté tout le monde sait? Mais au fond, au mieux, vous le dites, on se soutient à titre privé, mais il n'y a pas de prise de responsabilité publique, quoi.
C'est toute la difficulté du harcèlement sexuel, car on entend souvent dire que les femmes ne parlent pas, donc c'est vrai que la parole est difficile pour les femmes victimes de harcèlement sexuel ou de violences sexuelles qui sont encore plus importantes telles que les agressions et les viols, mais si elles ne parlent pas, il faut aussi savoir que c'est parce qu'elles ne sont pas entendues. Et ça, c'est une problématique que je retrouve dans la quasi-totalité de mes dossiers, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas entendues par leur entourage proche, logiquement au travail, hein, les collègues qui en effet ferment les écoutilles, mais pire, elles ne sont pas entendues par ceux qui normalement doivent entendre, c'est-à-dire les employeurs qui sont censés les protéger, et le système judiciaire, les parquetiers, le procureur de la République qui est censé tout de même poursuivre ces faits qui troublent l'ordre public. Parce que si on parlait d'intimité tout à l'heure, autant je suis d'accord pour dire que le sentiment amoureux relève de l'intime, autant je suis d'accord pour dire que les relations sexuelles relèvent de l'intime, mais les violences sexuelles faites aux femmes troublent l'ordre public. Et on n'est plus dans l'intimité. Il faut les dénoncer, certes, mais il faut aussi les accueillir, les entendre et les sanctionner.
Ah, il y a quelque chose qui est encore plus étonnant que ça, parce que vous êtes militante Europe Écologie Les Verts. Il y a toutes sortes de militantes sur la planète Terre, mais dans la catégorie militant, normalement, les écologistes sont les plus chauds, les plus agressifs, les plus accros, les plus... Et au fond, ça ne vous apporte manifestement aucun avantage, ça, d'être une militante, d'être une revendicative, d'être peut-être une écorchée et vive de la politique.
Oui, enfin, je suis pas sûre que tous les écologistes soient comme ça, je suis pas sûre qu'on soit les seuls. Mais
Vous êtes une militante, c'est un...
Non, mais je suis une militante, mais ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, et pourtant, pour moi, c'est plus simple, mais visiblement, dans les remarques que j'ai eues, beaucoup de gens se questionnent là-dessus, c'est qu'à un moment donné, quand on est militante politique, il faut qu'on continue aussi le combat politique. Et continuer le combat politique, là, ça en passait par ne pas porter plainte. Parce que si je portais plainte, je devais partir. Enfin, il était inconcevable que deux cadres se portent plainte l'un contre l'autre.
Voilà.
Et c'est une forme de militantisme, mais aussi féministe. Enfin, pour les femmes, que de rester. C'est pas une question d'ambition personnelle, c'est une question de principe presque. Et ça, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus de gens qui ne comprennent pas ça, mais vraiment, si je portais plainte, je devais quitter les fonctions.
C'est lui qui devait quitter si vous portiez plainte.
Ben, normalement, oui, mais sauf que dans les faits, ça ne se produit jamais comme ça. Donc, c'est une sorte de double peine pour les femmes et c'est compliqué de gérer ça pour les femmes. C'est aussi un facteur qui fait qu'elles ont du mal à porter plainte parce qu'elles savent que derrière, elles auront cette double peine.
Pierre est là au téléphone qui appelle d'Antony, 30 ans. Bonsoir à vous, Pierre.
Bonsoir Christophe et bonsoir à votre invité.
On vous écoute, tous les trois.
Moi, alors j'avais une question par rapport au harcèlement sexuel. En fait, tu vois, dans mon entreprise, j'ai une collègue, et je sais pas quoi penser. En fait, tu vois, notre supérieur, il a tendance à faire des blagues un peu vraiment lourdes, douteuses. Et même, ça arrive qu'il effleure un peu trop appuyé au niveau de la cuisse, tout ça, pendant le travail. Et je me demande si c'est à proprement dit du harcèlement sexuel ou pas. Enfin, je ne sais pas trop comment le...
Vous diriez quoi, vous, Sandrine? Merci pour votre question, Pierre. Ah bah, Sandrine Rousseau.
Avant de poser la question à
l'avocat.
Ah bah, moi, je pense que dans la mesure où ce n'est pas consenti, où la personne visiblement subit ses gestes, dès lors qu'on est là-dedans, on est dans du harcèlement, voire ça dépend où est-ce qu'il met la
dès
main. Mais
après, supérieur.
En plus, là, c'est sous influence. Ouais.
Ouais. Ah, ça commence où?
Alors, le harcèlement sexuel, c'est tout propos ou comportement à connotation sexuelle qui finalement atteignent, je vous fais brièvement, hein, qui atteignent la dignité de la personne et qui sont en effet pas consentis. On est là sur la définition du harcèlement sexuel. Là, il parle en plus d'attouchement. Des attouchements qui sont sur les cuisses.
D'effleurement, alors.
D'effleurement, oui, mais enfin, si vous voulez, entre l'attouchement et l'effleurement, de toute façon, quelquefois, quand même, il faut arrêter de faire un peu des distinctions qui n'ont pas lieu d'être. Donc, on pourrait être également sur un problème d'agression sexuelle. Il faut savoir qu'on entend souvent que les employeurs ou les supérieurs hiérarchiques, ou même les collègues, parce que le harcèlement sexuel existe aussi entre collègues, font mine de ne pas comprendre la distinction entre ce qui pourrait être un comportement de séducteur ou un comportement de harceleur ou d'agresseur. Pourtant, la réaction de la femme qui sont en face d'eux devrait suffire à les éclairer un minimum.
C'est ça qui indique,
Ce qui indique, c'est tout de même, est-ce qu'on accepte ou non les propos qui sont faits de l'autre côté.
On va marquer une première pause dans cette émission et on se retrouve juste après pour continuer ce débrief avec Sandrine Rousseau qui a écrit « Parler » chez Flammarion et avec Maître Maud Beckers.
Pour intervenir dans On de la traconte sur Europe 1, appelez le 3921, 50 centimes la minute.
.fr.
On de la traconte sur Europe 1.
Je vous ai raconté tout à l'heure un épisode assez, je disais, peu glorieux de notre histoire politique, qui est l'affaire Denis Baupin, où ce moment donc où le vice-président écologiste de l'Assemblée nationale, Denis Baupin, se retrouve accusé de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle par 16 femmes, et l'une de ses accusatrices, Sandrine Rousseau, qui a écrit et qui publie aujourd'hui ce livre « Parler », est avec nous. Je voudrais qu'on s'arrête sur le geste qui est commis à votre rencontre par Denis Baupin, que j'ai raconté, décrit dans mon récit tout à l'heure. Il vous plaque donc contre un mur, et il tente de vous embrasser, il vous effleure les lèvres, hein, et il met au passage ses deux mains sur vos seins. Voilà le geste tout entier. Je peux vous dire les choses telles que autour de moi, quand j'ai enregistré cette histoire, tous les gens qui ont participé au processus de fabrication ont dit « Ah, c'est que ça ?» Ça vous fait sourire?
Ça me fait sourire parce que ça, ça fait aussi partie de ces réflexions qui fait qu'on parle pas. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de minimisation de ce que c'est.
C'est ce que vous-même, l'avez un peu minimisé à un moment.
Enfin, au moment où ça se passe, on sait quand même qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait anormal. Ouais, après, mettre les mots dessus, c'est plus compliqué. Mais au moment où ça se passe, on sait que ce qui s'est passé n'est pas normal. Mais peut-être que pour se rendre compte, il faut inverser les rôles. Imaginez qu'il y ait un homme et une femme qui animent une réunion, qui soit une réunion tendue avec beaucoup de gens, etc. Et que à l'occasion d'une pause fortuite, l'homme va aux toilettes et que la femme lui court après, enfin pas lui court après, mais l'attend dans le couloir, lui met la main au paquet et essaye de l'embrasser. Comment on interpréterait ça? On se dirait que c'est profondément scandaleux, que ça n'avait pas lieu d'être. Enfin que, et pourquoi quand c'est une femme, on ne se pose pas la question de la même manière? On se dit bon, finalement, enfin voyez, il y a quand même
une culture
et il faut ouvrir les yeux sur le fait que ce ne sont pas des gestes anodins. C'est-à-dire que dès lors qu'on prend possession en quelque sorte du corps de l'autre, on nie.
On est dans l'emprise.
On est dans l'emprise et on nie la personne qui est agressée. Et c'est ça qui est le plus violent dans l'agression.
Ça c'est une phrase, vous, dans les affaires que vous traitez, maître Becker, c'est une phrase que vous devez souvent entendre. Ah, c'est que ça. Ah, il lui a juste effleuré la cuisse.
Disons que c'est le système de défense qu'on a en face de nous, mais ce sont des agressions sexuelles qui sont décrites là. Et surtout, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que lorsqu'elles sont commises, elles renvoient aussi la femme à une situation extrêmement humiliante qui est celle d'un objet sexuel. C'est-à-dire que là, Sandrine Rousseau décrit quand même qu'elle est dans une situation professionnelle extrêmement importante pour elle aussi en tant que militante, puisqu'il y a des choses très importantes qui sont en train de se négocier lors de cette réunion. Elle est totalement absorbée par cette vision professionnelle qu'elle a de militante politique. Et en sortant pour aller aux toilettes, on va la ramener à son statut d'objet sexuel. Et donc, ce qui est extrêmement violent pour les femmes victimes de violences sexuelles, notamment sur le milieu du travail, c'est que souvent, ce sont des femmes qui sont investies ou dans leur carrière, ou des militantes politiques qui croient donc à un idéal et qui sont coincées parce qu'elles, justement, elles ne veulent quand même pas tout mettre en l'air, une carrière qu'on a créée ou alors un militantisme politique. Parce que c'est vrai que Sandrine Rousseau, quand elle dénonce aussi, j'imagine qu'elle se demande quelles vont être les conséquences pour son parti. Et ça, c'est difficile aussi quand on est une militante de se dire qu'on peut créer des difficultés à son parti quand on s'est battu pendant des années pour une cause. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agression en tant que telle est violente. Mais ce qui est également violent, c'est la façon dont on ramène la femme à son statut d'objet sexuel, là où elle veut être respectée comme une femme qui pense, comme une femme qui s'investit, comme une femme qui milite politiquement.
Alors Sandrine Rousseau, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Évoquons donc ce que vous voulez faire de tout ça, parce que parler, c'est donc un livre, parler, c'est aussi une association, et ce qui vous a opposé à Christine Angot l'autre jour, c'est l'usage que vous voulez faire de tout ça. Vous vous dites, il faut parler de tout ça, pour en faire quelque chose, il faut amener les femmes à parler. Vous pensez qu'il est utile de témoigner pour entraîner des gens derrière vous, c'est ça ?
Je pense surtout que l'impunité se nourrit de l'impossibilité des femmes à porter plainte et à avoir des parcours judiciaires, parce que il faut quand même dire que la justice n'est pas toujours à la hauteur de l'enjeu en matière de violence sexuelle. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment frappée après l'affaire Baupin, c'est le nombre de femmes qui ont pris contact avec nous, qui étaient très seules, très isolées, très en souffrance, mais vraiment seuls, c'est-à-dire qu'on les laissait comme ça avec leur souffrance et finalement il y avait zéro réponse qui leur était faite. Et quand la famille était autour, ben en général au bout d'un moment ils en avaient marre qu'elle parle de ça, donc elle se retrouvait vraiment très isolée dans son problème. Et moi je pense qu'il faut qu'on donne un peu de force et un peu de chaleur aux femmes, parce que déjà les parcours judiciaires sont très complexes, et dans l'affaire Baupin, une des richesses aussi qu'on a eue, c'est d'être plusieurs, c'est-à-dire de pouvoir s'entraider, d'être dans des relations de copines, d'amis, et du coup de pouvoir s'appeler quand ça n'allait pas. Et ça, les femmes qui sont seules, c'est beaucoup plus difficile. Donc l'association, elle veut faire ça, c'est-à-dire juste dire, ben voilà, on vous tend la main, et si vous voulez, ben vous la prenez, si vous la voulez pas, vous la prenez pas. Et le livre, il est aussi fait pour que les femmes puissent quelque part réfléchir un peu sur le parcours avant d'y aller peut-être, ou pendant qu'elles y sont, pour se dire que, parce qu'on a toujours l'impression que ce qu'on vit est unique, et en fait on s'aperçoit qu'il y a quand même des choses qui sont très partagées, et dans les angoisses, les peurs, les moments de déprime et tout ça, c'est quand même des choses que j'ai beaucoup entendues, donc peut-être que ça sera aussi une aide à d'autres personnes.
Deux choses sur votre bouquin. D'abord, il est bien écrit, contrairement à ce qui a pu vous être dit, j'ai trouvé. Et la deuxième chose, c'est qu'il est agréable de parler avec vous calmement. Merci à vous, Sandrine Rousseau.
Merci
maître Becker d'être venu participer à cette émission, et lisez ce Parler qui est publié chez Flammarion. Dans un instant, l'ami Cantelou.
On de la traconte sur Europe 1.
Europe 1. Et c'est l'heure du père Cantelou et de Julie.
Olivier Fogiel qui est avec nous pour les titres. Bonjour Marco.
Eh oui, bonjour Julie, bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est parti pour les titres.
On vous écoute alors.
Avec la colère des buralistes, les cigarettes sont trop chères. Les buralistes voudraient qu'on fume beaucoup plus. Ils vont d'ailleurs bientôt manifester avec deux nouveaux slogans. Vos cancers sont nos emplois et c'est ta tumeur ou je meurs.
Ouais. Oh, écoute.
Pas sûr qu'on va s'apitoyer sur leur cas, les buralistes. Et puis la France insoumise aux taxes. Et oui, selon le Canard Enchaîné, Raquel Garrido de la France insoumise n'a pas payé ses cotisations retraite depuis 6 ans. On se rappelle que Jean-Luc Mélenchon, lui, a déjà fait des voyages en avion en business class. Donc, vu comme c'est parti, on va apprendre bientôt qu'Alexis Corbière de la France insoumise est propriétaire d'un yacht de 14 mètres.
Et oui, et je le dis, il n'y a pas de débat là-dessus. Le yacht est un objet ostentatoire.
Ah bah oui.
Comme l'écharpe en cachemire rouge de Jean-Luc Mélenchon, qui est ostentatoire. Oui, comme la coupe de cheveux nickel de chez Franck Provost de Monsieur Cohen. Oh. C'est ostentatoire.
Bah tiens.
Mais oui, il n'y a pas de débat là-dessus.
Merci Bruno Le Maire. Et merci Marc-Olivier, à bientôt.
Je vous en prie. Hein.
Allez, on va revenir sur cette déclaration de Gérard Collomb dans la presse. Avec Macron, on s'adore, on a une relation quasi fusionnelle. Gérard Collomb, vous confirmez ?
Oui, Emmanuel Macron. Et disons-le, notre gourou, je n'ai pas honte de le dire, parler d'adoration, oui, pour Emmanuel Macron n'est pas galvaudé, tant j'aime cet homme qu'est Emmanuel Macron.
Oui, et vous n'êtes pas le seul. Hein. Cette semaine, dans le magazine Le Point, son porte-parole, Christophe Castaner, déclarait « J'assume cette dimension amoureuse que j'entretiens avec Emmanuel Macron. Tout est fascinant chez lui, son intelligence, sa puissance physique même.
Voilà » Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Christophe Castaner est amoureux, oui, d'Emmanuel Macron. Mais qui ne l'est pas ? Nous sommes tous amoureux dans ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Et je dois le dire, pardonnez-moi d'être trivial. Emmanuel Macron, c'est où il veut, quand il veut. Oui, on aime, on nous assumons notre amour d'Emmanuel Macron.
Oui, bah c'est bon, on a compris, on va changer de sujet. Hein. Dans la presse, on a appris qu'un jour, on vous a vu débarquer dans la salle de musculation du ministère de l'Intérieur. Vous êtes fan de sport, monsieur Collomb ?
Je dois vous concéder que je n'aime pas du tout le sport.
Ah bah
mais... Oui, mais écoutez, je me suis mis au sport pour Emmanuel Macron. Ah bah,
merci Gérard Collomb, on a bien compris. C'est aujourd'hui que sort Le sens de la fête, du talentueux duo Toledano Nakache avec Jean-Pierre Bacri, film Europe 1. Ouais. On va accueillir Jean-Pierre Bacri tout de suite. Bonjour Jean-Pierre.
Ouais, bonjour. Je vous ai entendu en refaire des tonnes ce matin sur ces conneries de Blade Runner là, à 7h30.
Mais on a aussi parlé du sens de la fête. Hein, Patrick oui. Cohen l'a présenté comme la chronique d'un succès annoncé.
C'est vrai. Je dément pas. D'ailleurs, ça me met dans une joie pas possible ce succès à venir. Vous savez qu'on prépare le numéro 2.
Ah bon ?
Ouais, ça s'appelait le sens de la déconne.
Ah, le numéro 2 va s'appeler.
Il y a même le 3 qui est en écriture. Ça s'appelait attention au fun. Ouais, au casting, ils sont en train de contacter Michel Houellebecq, Vincent Delerme, Jean-Luc Trintignant et Hippolyte Girardot. Je crois qu'on va se poiler.
Merci Jean-Pierre Bacri, on souhaite un bon succès au film. Et on va parler musique pour terminer. Bernard Lavilliers sera à 9h l'invité de Patrick Cohen car il sort un nouvel album.
Et le gouvernement n'a rien fait.
Le roi de l'opposition au gouvernement. Vous réagissez à la sortie du dernier album de Bernard Lavilliers ?
Oui, car rendez-vous compte du niveau de ce pays. Bernard Lavilliers sort un nouvel album et le gouvernement ne fait rien. Aucune mesure coercitive concomitante à la sortie de ce nouvel album. Aucune loi n'est votée. Le gouvernement reste totalement passif et inopérant. Bref, le gouvernement ne fait rien et donc il n'a rien fait.
Hola, petit homme. Qui es-tu, petit homme ?
Ah, Bernard Lavilliers, il est déjà avec nous, dis donc. Mais c'est Éric Ciotti, ce petit monsieur, Bernard.
Il ressemble au pygmée d'Amazonie que j'ai rencontré. Es-tu de la tribu des puceaux comme Nicolas Barré ? Hola, Patrick Cohen, le latino de l'info. Le troubadour des radios. Patrick, c'est bien, tu as arrêté, j'ai entendu avec Fernandel et Anne-Sylvestre. Continue, continue, passe un peu de salsa.
C'est une frangine
portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit. Elle est super, c'est la salsa.
À demain, Nicolas Canteloup, et à tout de suite, Christine Peña et Isabelle Millet pour le journal. À tout de suite.
On de la traconte sur Europe 1.